RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. Content de vous retrouver pour discuter, pour débattre, comme tous les jours sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG à tes côtés, nous sommes avec la philosophe, la conférencière Bérénice Levé. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Sandrine Pégan, l'avocate. Bonjour maître.
Bonjour à tous nos
fololos. Et puis les fololos, les followers. Et puis Abel Boyer nous accompagne, l'éducateur. Bonjour Abel.
Salut les amis.
Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG? De quoi allons-nous parler? De quoi allons-nous discuter avec vous au 32-16? On va évoquer la canicule. Elle se prolonge, elle s'intensifie. Donc du coup, est-ce qu'on envoie tout bouler les codes pour aller travailler? Est-ce qu'on se dit, allez, c'est pas grave, short et tongs au travail maintenant, on y va, on autorise. Marine Le Pen, candidate, quatrième campagne. Les sondages la montrent toujours plus haut, là, au lendemain de la décision de justice. Est-ce que cette fois, c'est la bonne, la quatrième pour Marine Le Pen? Mais d'abord, on va s'intéresser à un match de foot qui a lieu à 22h ce soir et avec des notes policières sur les risques de débordement.
Dans les archives.
La Coupe du Monde de foot ce soir, c'est France-Maroc. C'est le quart de finale, c'est à 22h. Alors les notes policières attirent toute l'attention sur deux points. C'est la phrase générique. Risque de trouble à l'ordre public, regroupement sur la voie publique à craindre.
Oui, malheureusement, aujourd'hui, même si un match a lieu à des milliers de kilomètres, eh bien, on craint toujours maintenant les débordements d'après-match. Et c'est pour ça que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, et ses troupes seront mobilisés ce soir avec une violence qui peut surgir un peu partout sur le territoire. Beauvau prévoit de déployer plus de 20 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, dont environ 8 000 à Paris. Les terrasses vont rester ouvertes tard puisque le match a lieu à 22 heures. Donc, ça peut effectivement se prolonger jusqu'à 2 heures du matin. S'il y a les tirs au but, les prolongations, et peut-être que derrière, ça peut dégénérer. Alors, il y a des quartiers qui vont être piétonnisés. On va utiliser les drones. La préfecture de police à Paris a déjà pris un arrêté pour permettre aux drones des forces de l'ordre de filmer les rues. Est-ce que, bon, et bien sûr, il faut s'en désespérer parce que ça devrait être que de la joie et du bonheur, un match de football. Malheureusement, c'est aussi de la violence. Est-ce que vous craignez une soirée d'enfer?
32-16, pour en parler avec les grandes gueules, monsieur Abel Boyer.
Alors, ce sont des choses qu'il faut prévoir, mais paradoxalement, je pense pas que ça se passera aussi mal que pour la finale du PSG. À chaque fois que la France a gagné, là, on n'a pas eu de casse. À chaque fois que le Maroc a gagné aussi, on n'a pas eu de casse. Et là, je pense, en tout cas, j'ose espérer qu'on a pris les leçons de ce qui s'est passé.
Mais si la France perdait?
Mais qui irait casser? Si la France perdait, je pense pas. Honnêtement, les Marocains feraient la fête et les Français, eh ben, on rentrerait chez nous une main devant, une main derrière. Peut-être pas tranquillement, mais je pense que dans la mesure où il y a des espaces qui resteront ouverts, il faut organiser, c'est-à-dire il faut faire une prévention sécuritaire et accompagner la chose. Je prends l'exemple de la Courneuve. Il y a des fan zones. Il n'y a aucun problème, pas une voiture, et pourtant on est à la Courneuve, une ville qui
n'y aura pas de fan zone à Paris, par exemple.
Ouais, mais dans la mesure où il y a quand même un accompagnement, les bars seront accompagnés, il y aura quand même des espaces ouverts, des
donc
espaces.
Donc toi, t'es assez optimiste, tu penses?
Honnêtement,
que ça,
ouais,
ça
parce bien que passé. L'ambiance de cette Coupe du Monde, je pense qu'elle est assez différente de la Champions League. Il y a quelque chose de plus folklorique, je trouve, et pour l'instant, ça se passe.
Mais
très
tu sais
bien.
Très bien que si la France gagne, par exemple, il y a une volonté d'aller sur les Champs-Élysées, et qu'il y a toujours certains qui en profitent. Un peu du chaos général, mais parfois dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout le monde est dans la rue, ça bouge. Bah, on profite pour aller piller un magasin, s'en prendre aux forces de l'ordre, avec des tirs de mortier. Tu sais très bien qu'il y a toujours ce risque.
Ah, mais c'est qu'un quart de finale. Ce n'est qu'un quart de finale. On n'a pas gagné la compétition encore.
Sandrine, est-ce que tu partages cet optimisme?
Moi, Abel, je pense que t'es devenu un petit peu amnésique. Je vais juste vous rappeler, après, peut-être parce que je suis avocat pénaliste et que forcément, les faits divers, je suis plus sensibilisée. Mais en décembre 2022, demi-finale de la Coupe du Monde, France-Maroc, qu'est-ce qu'il y a eu à Montpellier? Il n'y a pas eu un petit Amen, 13 ans, qui a été percuté par un chauffard, sans permis, sans assurance. Il est décédé. Et tout ça, c'était en marge des célébrations.
D'accord.
Donc, et c'est pour dire que, en plus.
Le risque est là.
Voilà, moi, je ne suis pas contre le dispositif.
Mais est-ce qu'il y a eu des émeutes, il y a eu des magasins cassés, même si c'est triste pour ce décès? Est-ce qu'on a eu la même déferlante qu'il y a eu à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain en Champions League?
Il y a eu des débordements. Non, mais de toute façon, là, en fait, le problème, c'est même pas qu'il y ait un risque de débordement ou pas. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la prévention d'un risque qui serait purement théorique. On est dans la gestion d'un risque dont on sait qu'il s'est déjà réalisé. Donc, bien sûr que le dispositif, il doit être là, il est indispensable. Mais maintenant, on est en train de se dire que ça devient normal. Et c'est là où moi, je me dis qu'il y a un vrai problème. Bien sûr qu'on doit déployer des policiers, des drones, on doit fermer des stations de métro. Et d'ailleurs, moi, ce soir, j'ai une soirée qui est prévue dans le 6e, une closing party.
D'accord.
C'est une amie qui l'organise dans un restaurant et donc forcément tu as envie de soutenir tes proches. Donc je suis censée m'y rendre. C'est dans le 6e, boulevard Saint-Germain. J'habite moi près des Champs-Élysées. Donc autant te dire.
2 kilomètres. Oui, voilà. Oh là là, quel supplice.
En stiletto.
Voilà. Oui, c'est ça aussi, surtout.
Quelle épopée. Quelle odyssée. L'odyssée de Sandrine Pégan.
Voilà, exactement.
Donc, du 16e au 6e.
Bientôt mise en scène avec Kate Winslet. Voilà. L'odyssée.
Mais tout ça, vous pourrez le suivre, bien sûr, sur mes réseaux.
Bien sûr. Elle va faire un live en plus.
Non, mais attends, j'ai pas la définition avant de revenir au sérieux de la discussion de ce que c'est qu'une closing party.
C'est comme une maison close, mais dans un restaurant.
C'est une soirée dans un restaurant et puis il y a une chanteuse, il y a des gens qui font la fête.
C'est
pas une soirée privée. C'est
bon, est-ce qu'on peut revenir quand même à
Ah ben non, c'est très important cette closing party.
D'ailleurs, tu parlais de la mort de ce garçon de 13 ans. Le conducteur à l'époque avait pris 8 ans de prison.
Oui, il a été condamné d'ailleurs en octobre 2025, donc il y a pas très longtemps. Et c'était requis 12 ans, mais il en courait 20 ans.
Il a pris 8 ans des meutes.
Tu vois, Bérénice, dans la note de police et des renseignements territoriaux, ils attirent l'attention aussi sur accompagné d'usage de moyens pyrotechniques à craindre. Oui. Les moyens pyrotechniques, tu sais, c'est ce qu'on appelle les tirs de feu d'artifice ou de mortier, c'est-à-dire pour célébrer. Donc, peut-être pas des affrontements, mais au moins des gestes envers les forces de l'ordre.
Exactement. Les forces de l'ordre sont quand même exposées à ces risques. Et puis, moi, ce que j'ai entendu, parce que comme je crois que je le disais la semaine dernière, j'ignore tout du football, mais il n'empêche que si la France remportait, ça peut être vraiment des débordements absolument incommensurables. Donc,
Abel est optimiste.
Et je trouve que c'est son pêche un peu par optimisme parce que les précédents. Alors en même temps, je me dis peut-être que le Maroc et l'Algérie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a peut-être pas non plus les mêmes réactions que si c'était France-Algérie. J'en sais rien, mais. En tout cas, je trouve que c'est désolant de devoir, en effet, anticiper à ce point. Mais il le faut impérativement. Il ne faut faire montre d'aucun angélisme.
Je suis pas contre, mais par exemple, on a fait l'émission avant la finale de la Champions League. Je n'étais pas optimiste et je regarde comment chaque tour se passe. Le Maroc a gagné des matchs de façon flamboyante à chaque fois. Il n'y a pas eu de problème. Les Marocains ont fait la fête dans Paris. La France, pareil. Et c'est pas la même atmosphère du tout. Vous verrez.
Sur les champs, c'est pour ça. Il faut être attentif vraiment à ce que dit la note des renseignements parce qu'elle va plus loin. Elle y met même une connotation, tu vois, ethnique, en disant une ferveur certaine est attendue de la part des supporters marocains parce que le Maroc est aussi la dernière équipe africaine en lice.
Tu vois, c'est la note qui le dit.
Mais oui, mais donc, ça peut agglomérer.
Donc tous les Africains vont descendre et tout casse. Oui, non, mais c'est pas toi.
C'est la note. Et d'autres. Alors
encore un ramassis de bêtises.
Attention,
pas un ramassis de bêtises.
Vas-y, développe.
Mais non, c'est pas un ramassis de bêtises. C'est prendre acte de la réalité de la France aujourd'hui.
Donc les Africains vont tous descendre comme ça.
Non, mais
ouga, le Maroc nous a. Bah oui, ben
tu nies cette réalité-là.
Explique-moi quelle est la réalité. Vas-y.
Non, mais
Il y a bien quand même un communautarisme qui s'exprime aujourd'hui en France. Et par conséquent, on ne peut absolument pas faire abstraction de cette réalité-là.
Il peut y avoir un communautarisme et une fierté continentale sans violence.
Non, mais au-delà quand le Maroc s'est qualifié lors des précédents tours, il n'y a pas eu ces débordements.
Et oui, mais là, ce qu'apporte la note, c'est que précisément, c'est la dernière occasion d'avoir une équipe
du continent africain
présente et donc qui risque d'être éliminée. Donc, il n'y a pas simplement
le Maroc. Alors après, nous n'avons pas le même rapport avec le Maroc qu'avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a moins de tensions, il y a moins d'antagonisme.
Voilà. Il y a moins de
ressentiment.
Mais en fait, moi, je suis au-delà des problèmes de communautarisme, c'est que malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer une fête sans qu'il y ait de la casse et des débordements.
Eh oui, c'est ça. Maintenant, ça devient normal de devoir tout sécuriser.
Comme c'est des fêtes qui sont incontrôlées, puisque les gens descendent dans la rue, tu verras, il y aura quand même beaucoup de gens. Si on se qualifie nous français, naturellement, en plus, c'est l'été, les jeunes ont fini de passer le bac, etc. Il fait chaud. Pardon, termine. À 22h, il fera encore très chaud, donc ça sera pas 22h, d'ailleurs, ça sera minuit.
Le match peut durer jusqu'à 1h du matin.
La nuit, c'est la nuit tous les dangers en général. Il y a beaucoup de jeunes qui vont être dans la rue, il peut y avoir des accidents de voitures, de circulation. Donc, moi, je pense que c'est quand même une nuit
qu'il n'y a pas eu.
Il y a quand même une
journée.
On fait comme si les jeunes gens qui sont susceptibles de semer le trouble en France ne seraient pas français. Or, ils sont français, mais ils donnent la préséance à leurs origines marocaines. Donc, et tout le monde devrait être derrière l'équipe française.
Non, parce qu'il y a des Portugais, il y a des Français d'origine portugaise. Quand le Portugal joue,
c'est bien un problème.
Et moi, j'étais quand même présente dans les comparutions immédiates quand il y a eu justement ces débordements par rapport au match précédent où il y a eu tous ces problèmes là sur les Champs-Élysées.
Le
et ben pardon, Bérénice, mais j'avais dans la salle d'audience, il y avait quand même il y avait un Martin, il y avait un Frédéric, et ils étaient prévenus parce que justement ils avaient cassé des vitrines, etc.
Oui. Donc bon, après, c'est pour dire qu'il y a ceux qui aussi se saisissent de toute occasion. Pour
certes, mais voilà, donc
bien sûr,
le débat c'est
on a Jean-Luc qui veut intervenir dans la discussion. Jean-Luc, alors il est coach de boxe. Alors moi, Jean-Luc, lui, il sort tranquille. Lui, il sort peinard, les mains dans les poches, rien ne peut lui arriver. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-Luc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être la soirée risquée ou pas? Alors dites-moi.
Le problème, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'il y a une soirée. Excusez-moi. À chaque fois qu'il y a une soirée, maintenant aujourd'hui, on se pose la question s'il va y avoir des débordements ou pas. Je pense que c'est pas normal. C'est pas normal aujourd'hui. Le sport, on devrait communier tous, peu importe Maroc, France, Allemagne. C'est la Coupe du Monde. On se fait une joie de regarder les matchs. Donc il y a des matchs qui sont plus intéressants que d'autres. Et aujourd'hui, la préoccupation première, c'est de savoir s'il va pas y avoir de la casse et combien de voitures vont être brûlées. Maintenant, on banalise tout. Et moi aujourd'hui, ça m'agace parce que. Comme je vous dis, moi je suis sportif et le sport, c'est fédérateur et peu importe les religions, peu importe la race dans laquelle on est, on doit juste apprécier le moment.
Mais Jean-Luc, c'est normal après de mobiliser les forces de l'ordre, vous êtes d'accord avec ça quand même, ou vous le regrettez finalement?
On le regrette.
On le regrette parce que normalement il ne devrait pas y avoir cette problématique.
Non, mais même avant, les forces de l'ordre étaient mobilisées, juste que les effectifs étaient moindres. Mais les forces de l'ordre ont toujours été mobilisées.
Oui,
France 98, les forces de l'ordre étaient mobilisées. Jean-Luc a raison sur le fait qu'on devrait se concentrer que sur le sport. Mais moi, je maintiens, sur les tours précédents, on n'a pas eu de débordement.
Oui, mais parce que tu sais très bien que
l'enjeu est mobilisation, elle monte avec l'enjeu.
Va monter. Mais plus on ira vers la finale, plus il y aura du monde dans les rues, etc.
Maintenant, la France se qualifie pour la demi-finale et elle affronte je ne sais pas qui, on va dire quoi. On ne pourra plus donner l'exemple du Maroc, dernière équipe africaine en lice. Si la France se qualifie pour la finale face à l'Argentine, qu'est-ce que l'on va dire encore?
Il y a quand même plus de Marocains. Non, mais non, Abel, là, t'es une mauvaise foi. Il y a quand même plus de Marocains en France que d'Argentins.
Oui, bien entendu. Mais qu'est-ce que l'on dira aujourd'hui, on ne se qualifie pas pour la finale en réalité. On est encore loin d'avoir gagné. Donc, moi, penser qu'aujourd'hui, la France va être à feu et à sang, on verra demain matin.
Jean-Luc, par exemple, vous, est-ce que vous diriez à vos amis ou vos enfants ou vous-même, vous iriez faire, vous iriez regarder la soirée à l'extérieur ou dans un bar ou en ville pour ce match ou pas du tout? Ou vous dites, ah non, c'est pas ma place?
Non, bah, effectivement, c'est pas ma place. Moi, je préfère rester chez moi, regarder le match et puis m'assurer que les enfants sont en sécurité et puis partager ce moment-là avec ma famille. Alors, même si je le comprends pas et que je suis obligé de faire ça, mais au moins, je limite les risques.
Mais ça veut dire que vous ne laisseriez pas vos enfants sortir, aller voir le match, je sais pas, dans un bar, dans un quartier, non? Ça vous inquiéterait?
Non, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, on en est là, malheureusement, mais on en est là.
Bien sûr.
Ah ouais, d'accord. Jean-Luc, je vous remercie d'avoir
d'avoir été avec nous. C'est marrant parce qu'on découvre à chaque fois des choses qui sont quand même devenues malheureusement banales. Souvenez-vous de la finale avec des champions. Pareil, elle n'a pas lieu en France et pourtant Paris était à feu et à sang. Et donc effectivement, quand t'as des enfants, tu t'inquiètes de savoir s'ils vont aller célébrer ou pas. Si vous allez au Trocadéro où c'était particulièrement chaud ce soir-là. Et donc là, pareil, si t'as des enfants, bah il faut prendre les précautions. Il faut leur dire de pas aller se balader ensuite près des Champs-Élysées.
Ouais, je pense aussi que les maires doivent organiser les fan zones, parce que le samedi soir Paris était à feu à 100, mais dimanche sous la Tour Eiffel ça a pas pété.
Le
maire de Paris avait demandé.
C'est au maire à soir, il faut qu'on s'organise pour.
Il avait dit
qu'il y ait des fan zones. Sauf que la note dit quoi? Elle dit aux policiers, attention, vigilance sur les lieux de retransmission organisés dans toute la France. Les provocations peuvent être échangées au sein même de ces zones entre supporters et c'est susceptible de générer des incidents au sein d'un public nombreux. Donc, écoutez, ça vous fait réagir. Il y a des policiers déjà qui veulent être avec nous au 32-16. France-Maroc, est-ce que ça peut dégénérer? Est-ce que ça peut être la soirée est compliquée? Pour certains, la soirée de tous les dangers. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Vous êtes sur RMC, RMC Story. Il est
9h20. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Si vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, tant mieux, vous allez pouvoir reprendre la parole au 32-16. On va pouvoir continuer de discuter ensemble. Je vois déjà Rachid, notre ami éducateur du côté de la Dordogne, qui veut prendre la parole. En plus, il est franco-marocain. Mais avant de donner la parole à Rachid, avant de continuer de vous écouter, qu'on discute avec Bérénice Levé, Sandrine Pégan et Abel Boyi, je vous rappelle qu'on a les vacances. On a les vacances Bellambra, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Les vacances Bellambra, c'est un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra. C'est le spécialiste des clubs vacances pour les familles. Vous choisissez parmi les 45 destinations. Vous avez la carte de France, la carte des clubs Bellambra. Vous choisissez la mer, la montagne ou la campagne. C'est un séjour premium, ce qui veut dire que dès que vous arrivez, on vous dit bonjour monsieur et madame. Hop, et on vous prend. Vous n'avez rien à faire sauf vous détendre, vous laisser aller, confier les enfants et puis profiter des vacances. Donc pour ça, vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20. À vous de jouer, à vous de gagner.
Allez les bleus, on est tous avec vous.
Elle était terrible cette
chanson. Non mais surtout cette chanson, c'est pour la Coupe du Monde 2002.
Ouais.
Où on a été humiliés puisqu'on a, après avoir gagné celle de 98, on n'avait pas réussi à passer le premier tour. Donc rien ne va là.
On a Rachid.
Mais on penserait fort à Johnny.
Rachid qui va intervenir dans la discussion. Bonjour Rachid.
Bonjour les GG.
Salut. C'est, ouais, ça va bien Rachid. Alors, ce qui est vous avez la triple casquette, éducateur français et marocain. Est-ce que Exactement. Vous pensez que ce soir les policiers, le ministère de l'Intérieur a raison d'avoir des craintes ou pas?
Mais moi je vais vous répondre sincèrement. Aujourd'hui, à chaque phénomène, à chaque fête qui peut y avoir en France, ou est-ce que c'est lié uniquement au football et au match du Maghreb, ou est-ce que c'est lié à d'autres dès qu'il y a un phénomène festif? La question elle est là.
Oui, ou c'est lié au football, moi je pense.
Vous pensez que c'est lié uniquement au football?
Beaucoup, parce que les JO, il n'y a pas eu personne à casser pendant les JO. Je pense que le football, c'est un sport très populaire qui attire beaucoup de monde et donc qui attire malheureusement aussi des gens, qu'on voudrait pas voir, des délinquants, des gens un peu débiles, qui se mettent parfois dans des états aussi, voilà.
Oui, ça, je peux vous comprendre, mais quand je regarde moi les différentes manifs qu'il y a pu avoir en France, que ce soit les gilets jaunes, les différents événements festifs, le jour de l'an, des choses comme ça.
Les jeux, c'était pas festif, c'est une manifestation sociale.
C'est des contestations.
Les mêmes qui viennent nous emmerder. Je suis désolé, c'est le cas.
Oui, c'est vrai, le nouvel an, vous avez raison, le nouvel an aussi, ouais.
Voilà.
Le feu d'artifice, le 14 juillet.
Dès qu'il y a la fête en France, on a toujours les mêmes. Aujourd'hui, c'est un phénomène de société, c'est pas lié au football ou au peuple maghrébin. C'est un phénomène. Et aujourd'hui, les jeunes qui nous emmerdent, et moi je le dis franchement, n'ont rien d'autre à faire et profitent de ces événements pour venir salir notre image.
Aujourd'hui, c'est peut-être
ça
lié aussi.
Ça représente quoi? On a combien de Marocains en France par rapport à une petite minorité qui ne sont pas
mais Rachid, il y a des pays. Ouais, il y a des pays où ça ne se produit pas. Peut-être d'ailleurs au Maroc, je pense qu'il n'y aura pas de. Donc il y a peut-être aussi notre rapport à la justice, à la répression. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans des pays, on peut se le permettre parce qu'on se dit on risquera pas grand-chose. Il y a peu de chances de me faire attraper. Hein. C'est celui qui court le moins vite qui se fait attraper. Hein. Alors que dans d'autres pays, on ne bougera pas une oreille parce qu'on sait que derrière, on risque.
Mais aujourd'hui, il y a une cassure profonde depuis des années. Ça existe, c'est pas. Il y a une cassure profonde entre une certaine partie de la population des banlieues qui, je ne sais pas, ne se sentent pas concernés par le fait de vouloir fêter. Sont là uniquement pour voilà, mais pas tous. Je vous le dis, heureusement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, à chaque fois, dès qu'il se passe quelque chose, on va tout de suite mettre en avant. Ce phénomène-là, au détriment de la fête. Moi, aujourd'hui, je suis franco-marocain. J'ai choisi mon camp, je vous le dis bien tout de suite, je suis pour le Maroc ce soir. Mais si jamais le Maroc ne va pas au bout...
Vous changez de maillot.
Le premier supporteur français.
C'est bien. Le maillot, il est rouge au-dessus.
Vous êtes sûr de gagner, Rachid.
C'est pratique. Il est pragmatique, Rachid.
Vous êtes sûr de gagner.
C'est ça, il aurait gagné à tous les coups.
Sincérité, honnêteté, si jamais le Maroc perd ce soir, je serai le premier.
Oui, mais alors, Rachid, d'accord, mais pourquoi vous êtes né où, Rachid?
Moi, je suis né au Maroc. Je suis arrivé. Mon père est arrivé. Mon père est arrivé, j'avais un an et demi.
D'accord.
Et j'ai grandi ici avec les valeurs de la République. Et
vous avez grandi du côté de Périgueux, en Dordogne, là, c'est ça?
Non,
vous
du tout. Moi, je suis originaire de la ville de Sens. Et ensuite, je suis par le sport. J'ai été joueur de football.
Pourquoi ne pas être pour la France dès ce soir?
Parce qu'il y a une double nationalité. Vous avez la double nationalité.
Alors, est-ce que vous avez des origines, par exemple?
Oh, mais moi, il faut remonter à mes arrière-grands-parents. Pour
moi, oui. Vous avez des origines avec ou né ailleurs?
Abel, je sais pas, ou Sandrine.
Pour Marseillaise, moi.
Non, non. C'est à part, ça.
Est-ce que si on vous posait la question, on vous demanderait de renier votre pays d'origine et de supporter le pays dans lequel vous avez.
Ouais, mais après, regardez, vous faites une généralité, ça dépend. Il y a des gens qui sont franco-marocains et qui seront pour la France aussi, ça dépend.
Moi, il y a beaucoup de gens qui sont déchirés quand t'as une double nationalité, c'est d'un mec qui doit.
Allez-y, Rachid.
J'aurais voulu que ce match se passe en finale.
bien sûr.
Comme ça, vous faisiez une mi-temps pour l'un, une mi-temps pour l'autre.
Vous étiez sûr de gagner, quoi.
Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, vous demandez à un Portugais, est-ce qu'il est pour le Portugal ou pour la France? Si jamais il y avait France-Portugal, vous aurez 100% des réponses. Si vous dites, bien sûr, je suis pour le Portugal, on ne peut pas revenir.
Rachid, je vais vous prendre un autre exemple, parce que c'est quelqu'un qui nous écoute souvent, c'est Manuel Valls. Qui à la fois français et espagnol.
Moi, je ne fais pas
il défend Barcelone parce qu'il est, il est catalan.
Catalan, hein.
Je suis sûr que lorsqu'il la France est face à l'Espagne, ça va être compliqué pour
son
lui.
Cœur balancé,
c'est très compliqué. Quand t'as double nationalité, c'est très compliqué de choisir.
Mais en tant que catalan, est-ce qu'il est vraiment pour l'Espagne?
Manuel Valls, c'est pas le bon exemple. Il ira toujours. Manuel Valls, c'est pas le bon exemple. Il ira toujours dans le sens du vent, lui.
Ça c'est pas très gentil.
C'est un vrai
supporter de foot. Mais Rachid, donc ce soir, quel que soit résultat, vous serez content quand même. Voilà.
Non, je vous dis honnêtement, j'aimerais que le Maroc puisse, pour l'histoire.
Oui, pour l'histoire.
La dernière Coupe du Monde, c'était largement mérité. La France est passée, et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu en finale.
Mais est-ce que vous pensez que le Maroc est meilleur qu'en 2022,
la meilleure équipe africaine? Mais
le Maroc meilleur qu'en 2022, je sais pas. Il manque un ou deux joueurs quand même importants qui n'ont. Saïd Barry qui s'est blessé, El Zelzouli qui s'est blessé juste avant le début de la Coupe du Monde. Mais je pense honnêtement que ce soir le Maroc peut rivaliser.
Alors pronostic, votre pronostic, Rachid?
Moi je vois un petit match nul et victoire au pénalty avec un arrêt de Bono décisif. Voilà.
D'accord.
Et voilà. Et si je peux terminer en vous disant.
Arrêtez de rêver, Rachid.
Voilà.
Il faut pas avoir peur.
Ah, mais nous,
il faut arrêter de vendre la peur sans arrêt. Pas vous spécialement. Hein.
Non mais
c'est ce qui est un génie, il a raison. Non, mais
ce qui est un football, ça reste une fête. Je vous dis, le nombre d'amis français, que je peux avoir, avec qui je vais regarder le match, avec qui on va échanger le match, avec qui on va faire la fête ensemble. Il faut arrêter de vendre la peur sans arrêt. Aujourd'hui, le peuple marocain, pour la plupart, c'est un peuple civilisé, intégré, qui aiment faire la fête et qui se reconnaît à travers les valeurs de la République. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, il faut arrêter de vendre la peur. Ça va
donc
bien se
passer. Donc, vous confirmez que ça va bien se passer ce soir, alors.
J'espère.
La minorité qui nous emmerde, elle emmerdera
tout le temps. Mais c'est toujours la minorité, de toute façon.
Bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas tout mélanger, s'il vous plaît. Voilà le message que je voulais vous passer ce matin.
Non, mais merci d'avoir été avec nous, Rachid.
Bon match.
Merci, bon match.
Merci à vous aussi. Allez, bonne soirée.
Salut, Rachid. Allez, on a Claude qui. Ah ben, Claude, il nous appelle d'où, devinez d'où? De Marrakech. Ah bon. Il écoute les GG. Bonjour Claude.
Oui, bonjour toute l'équipe.
Bonjour. Donc, bienvenue Claude.
Merci. Donc je voulais dire que j'étais assez d'accord avec Rachid, déjà, et qu'on aurait ici préféré une finale Maroc-France plutôt qu'un quart de finale. Ce qui est certain à Marrakech, c'est que toute la ville est surexcitée. Vous ne pouvez pas imaginer les soirs de match, comment ça se passe. La place de Jemaa el Fna est bondée de monde. Il y a je sais pas combien de milliers de personnes. Et tout se passe très, très bien.
Il n'y a jamais de débordement?
Il n'y a jamais de débordement. Les seuls débordements qu'on a eu, c'est lorsqu'il y a eu le match qui s'est terminé à 5 heures du matin, heure locale, après les prolongations, etc. C'est les klaxons, les sonneries de mobylettes, les voitures. Jusqu'à 5-6 heures du matin.
Ah, mais je pense qu'à Marrakech, on craint plus la police qu'à Paris.
Évidemment. Les prisons, elles sont sympathiques qu'en France.
C'est exactement ça. La police est très crainte.
C'est
et les jeunes ou les moins jeunes savent qu'ils n'ont pas intérêt à faire de conneries, quoi.
Mais dites-moi ce soir, puisque vous parliez de la place Jemaa el Fna, est-ce que ce soir, vous aurez maillot français et maillot marocain mélangé, Claude, ou pas?
Je pense pas sur la plage de Jemaa el Fna.
Non, ça sera surtout Marrakech.
Non, mais est-ce que vous pourriez aller place Jemaa el Fna avec un maillot de l'équipe de France, Claude?
Ah oui, je pense que je pourrais. Ouais. Peut-être pas place Jemaa el Fna parce que je vous dis, c'est quand même des milliers de personnes.
Claude tout seul
avec le maillot
en fait, bleu, que il y aura pas de risque de lynchage.
Non mais dans un bar, je peux aller dans un bar avec un maillot de l'équipe de France, oui, sans problème. Ouais.
Claude, ouais. Ce soir vous allez faire comment ce soir? Vous allez le vivre comment à Marrakech? Alors
le problème c'est que si je sors et que s'ils gagnent ou s'ils perdent, on va avoir un mal fou à rentrer. Ouais. Parce que ça va être des bouchons partout. Donc j'ai pris la décision d'aller chez des amis un peu à l'extérieur de la ville, ouais, et d'y passer la nuit.
D'accord, donc prudence quand même pour vous, Claude.
Mais bon, j'ai parié quand même pour 3-1 pour la France.
3-1 pour la France?
Ouais, voilà, donc on verra demain.
Avec des buts de qui?
Alors, les buts, alors moi j'ai mis Doué,
Mbappé,
j'ai mis Dembélé, et comment il s'appelle, Cardola.
Barcola.
Barcola.
Bradley Barcola. Merci Claude d'avoir été avec nous. Bon match. Et merci de nous suivre de Marrakech. Vous écoutez régulièrement là-bas. Vous vivez là-bas quasiment à l'année.
Toute l'année.
On peut venir vous voir, Claude, si vous voulez.
Soyez la bienvenue.
Merci Claude. Passez une bonne journée. Et puis on va terminer avec un coup de fil du côté des Bouches-du-Rhône, de Vitrolles. C'est Narges qui est avec nous. Bonjour Narges.
Bonjour à tous.
Vous craignez des débordements, vous aussi, ce soir, ou des provocations dans les lieux de retransmission organisés? Vous voyez, c'est ce que dit la note des renseignements, qui attire l'attention aussi sur la rancœur de certains. Dites, qu'est-ce que vous en pensez, Narges?
Alors moi, je pense que je me plains pas des débordements, ils sont connus. Je suis juste un petit peu étonnée que sur votre plateau, donc radio officielle de la Coupe de France, de la Coupe du Monde. On puisse entendre et on puisse stigmatiser une population. Alors, j'aime pas le dire, mais je vais le dire parce que vous allez comprendre mon propos. Je suis française d'origine algérienne et j'entendais ce matin sur votre plateau qu'effectivement, les supporters algériens seraient peut-être plus violents, plus présents, plus visibles que d'autres. Et là, je me demande, je me dis si vous avez conscience que...
Oui. Parce qu'il y a eu des précédents, malheureusement, Narges. Il y a eu des précédents, notamment de la Marseillaise. Attendez, Narges, il y a eu des précédents avec la Marseillaise qui a été sifflée. Et là, c'est la note des renseignements. La note des renseignements dit, elle craint des rancœurs, voire des tensions, notamment avec des supporters algériens dont l'équipe est éliminée. C'est la note des renseignements qui le dit. C'est pas nous qui stigmatisons.
Vous la répétez sans avoir un minimum.
Abel a relativisé.
Moi j'ai bien dit que cette note, elle était stupide.
J'étais d'accord avec vous d'ailleurs. Merci pour cette intervention. Mais je vais juste terminer. Je voudrais juste au fait que vous vous rendiez compte que
qu'il faut qu'il arrive pour que...
Allez-y, Narges. Oui, allez-y.
Merci. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous dites, donc ce matin j'écoutais votre radio, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous répétez cette note sans plus d'informations, sans prendre aucune mesure supplémentaire, vous stigmatisez une partie de la population?
Mais on stigmatise non, pas du tout une partie de la population.
Mais tout le monde se sent toujours stigmatisé.
Les supporters algériens sont peut-être plus violents que les Marocains. En fait, c'est pas le sujet, il n'est pas là. Le 31 décembre.
Non, on a dit qu'il y avait peut-être plus de rancœur. Dans les confrontations football entre voilà ben c'est ce que vous dites vous-même, il y a une histoire.
Bah voilà,
même l'histoire elle a 70 ans, elle a 60 ans.
On dit la même chose, on dit qu'il y a en ce moment, on dit entre la France et l'Algérie, il y a en ce moment même quand même des dossiers qui sont très sensibles, je pense notamment à l'incarcération de Christophe Glaize, aux relations exécrables entre les deux régimes, je parle pas de la population, entre le régime algérien et les autorités françaises. Voilà, et ça crée aussi de la crispation. Il y a aussi l'histoire très compliquée entre les deux pays. Visiblement, on n'a pas tout digéré. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'Algériens et de Français qui sont au-dessus de ça.
Attention de ne pas stigmatiser. Sur deux propos.
Oui, oui.
Merci d'avoir appelé. Si je peux au moins les exprimer, ce serait sympa. Le premier, c'est juste, je vous demande juste de faire attention en fait à ne pas stigmatiser une population comme moi. Je me suis sentie stigmatisée ce matin. Je vous demande juste d'un peu plus de mesures. La deuxième, c'est que je crois que j'entendais ce matin Bérénice nous expliquer qu'il fallait supporter la France. Je voulais juste demander à Bérénice, est-ce qu'elle a une double nationalité? Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas une double nationalité, on ne peut pas comprendre pourquoi effectivement on est né en France et on va supporter le Portugal. J'ai mon mari qui est italien. Il est né en France, mais il est supporté sur les coups du monde précédent.
L'Italie doit être malheureux.
Très malheureux. Mais en fait, c'est comme ça, ça ne s'explique pas. Et tant qu'on n'a pas cette double culture, on ne peut pas le comprendre. Donc il faut arrêter de dire que quand on est français, vous supportez la France.
Pendant très longtemps, la tradition française, ça a été cela, de se sentir français. Il y a une hiérarchie.
La société a changé. Avant, c'était mieux.
La société a changé. Je dois entériner tous les changements.
La société change. Vivre dans l'ancien temps.
Elle change peut-être. Je ne suis pas contrainte et forcée d'entériner les changements.
Il y a un autre point.
Vous permettez que le jugement s'exerce au nom d'une certaine idée de la France et de l'appartenance à une patrie. C'est tout. Et donc, le propre de la France, c'est de hiérarchiser dans les appartenances. Alors, je ne dis pas que, affectivement, vous ne puissiez effectivement avoir deux attachements. La fameuse phrase de Marc Bloch, ce serait un pauvre cœur que celui qui ne pourrait pas contracter différentes affections. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous que vous aimiez les deux, mais en revanche que l'on fasse prévaloir un drapeau sur un autre, non, le drapeau français est le seul.
Vous n'avez pas choisi on vous demande pas de choisir entre un père et une mère. C'est pareil en fait pour les origines. Je suis français, je suis né dans le 83, j'ai grandi en France, j'adore mon pays. L'Algérie, j'y vais parce que mes parents sont nés là-bas, qu'il y a une histoire et que j'aime aussi ce pays. Ne m'obligez pas à choisir.
Je ne vous oblige pas à choisir puisque je vous accorde affectivement.
Quand on est né en France, il faut choisir la France. Ça veut dire quoi?
Mais Bérénice, ça veut dire que tu es contre. Vous êtes contre. Tu es contre la double nationalité, Bérénice?
Ah oui, je suis contre la double nationalité, en effet. Je pense que ça, c'est une erreur monumentale. On doit être d'un pays et d'un attachement, d'une citoyenneté, et que dans la sphère privée, on puisse effectivement avoir des affections partagées. Jamais, d'ailleurs, la tradition assimilationniste de la France n'a interdit ses attachements. Mais la seule chose, c'est que le propre de la France est de hiérarchiser dans les appartenances, et je suis absolument contre la double nationalité.
En tout cas, ce que j'espère, Bérénice, c'est que tu auras la même fermeté pour ceux qui se revendiquent du Portugal, parce que l'hypocrisie, c'est quoi?
Tout à fait.
C'est que le binational franco-africain, on va plus lui reprocher d'être attaché à son pays africain, alors que les personnes qui font la promotion du Portugal, la promotion de l'Italie, et on on parlera même pas du sujet épineux de la promotion d'Israël. On les embête pas. Si, non, mais moi, je parle.
La double nationalité franco-israélienne, au moment de la guerre sur place.
Attention. Tu parles dans le cadre de la guerre, mais sinon, mais quand c'est les pays, surtout les pays du Maghreb, c'est comme si c'est attention, c'est islam, voilà.
Parce que la population est plus importante.
Mais oui, mais c'est-à-dire qu'une personne comme Narges qui choisit de supporter l'Algérie, où on a eu l'éducateur dont j'ai oublié le prénom, qui choisit le Maroc.
Tu fais fi quand même de tous les problèmes d'intégration, d'identité qui traversent en ce moment ce pays, où effectivement il y a des petits Français qui sont de la quatrième génération et qui aujourd'hui se sentent plus algériens que Français, alors qu'ils n'ont jamais mis un pied en Algérie. Ça interpelle.
Moi je juge pas. Mais ça c'est mon truc.
Mais pourquoi
tu fais prévaloir les mœurs?
Moi je fais comme si ça n'existait pas. Alors que c'est mon public.
La question c'est franco-italiens.
La question c'est pourquoi est-ce que ces jeunes, au lieu de s'attacher à la France, ils s'attachent à leur pays d'origine, bien qu'ils ne le connaissent pas? Est-ce qu'on peut parler des problèmes de ghettoisation? Pourquoi on retrouve les mêmes populations aux mêmes endroits aussi?
Je voudrais au moins que tu me reconnaisses une chose, c'est que je suis aussi sévère à l'endroit des Portugais qui feraient prévaloir leur
attachement. Je l'espère.
Je ne fais pas de distinction. Oui, mais donc
merci à Narges d'avoir été avec nous. Merci à vous, Narges.
Allez la France.
Allez la France.
Merci Narges. À bientôt pour de nouvelles discussions. Alors, est-ce que vous craignez des débordements, oui ou non? C'est la question qu'on a posée. En s'appuyant sur la note du renseignement territorial. Voilà. Vous êtes quand même inquiet, vous dites oui. À
79%.
Je pense qu'il ne se passera rien. Avec Abel, on fait partie des 29%. Dans un instant, on s'en fout, pas. Restez avec les GG en direct sur RMC, il est 10h moins le quart.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, il est 10h moins 10. Nous sommes avec Bérénice Levé, la philosophe, Sandrine Pégan, l'avocate, Abel Boyer, l'éducateur. Et c'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès-Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Des députés demandent la convocation d'urgence de l'ambassadrice du Paraguay en France après les insultes racistes de leur sénatrice visant Kylian Mbappé. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Abel?
On s'en fout pas.
Sandrine?
On ne s'en fout pas du tout.
Bérénice?
Oui, on s'en fout. Oui, je m'en fous un peu.
À l'image donc du député LFI Carlos Martins Bilongo sur les réseaux sociaux, qui demande donc la convocation de l'ambassadrice du Paraguay en France. La sénatrice paraguayenne en a remis une couche, d'ailleurs, hier devant le Sénat du pays. Céleste Amaria a carrément traité Mbappé de fils de.
On a compris. Trois points de suspension.
Voilà. Pourquoi Abel. Tu t'en fous pas, Abel?
Parce que c'est inadmissible, mais. En fait, il faut se débarrasser de ce dossier assez rapidement. Interdiction pour cette dame de venir sur le territoire et on n'en parle plus. Parce que quand elle insulte le capitaine de l'équipe de France, elle insulte le pays en réalité. Donc tu te débarrasses de ce cas. Elle, sa famille, tu viens plus en France et c'est tout. Mais on est en train, je sens qu'on va partir sur un truc où ça va traîner, où on va perdre du temps dessus.
C'est devenu une affaire diplomatique.
Ouais, exactement, mais on règle ça à la limite que le Quai d'Orsay la convoque, je sais pas quoi, mais interdiction de territoire.
Dans le Quai d'Orsay, il peut convoquer l'ambassadeur, mais pas elle.
C'est tout,
il convoque l'ambassadeur.
J'ai pas dit que le Quai d'Orsay la convoque elle, en plus elle est pas en France, mais je dis que interdiction de territoire et on n'en parle plus.
Jean-Noël Barrot pourrait convoquer l'ambassadeur du Paraguay.
Oui, non, mais là, tu vas vraiment dans les extrêmes. C'est une mesure complètement disproportionnée. En revanche, là où, en effet, il était important que la diplomatie française réagisse enfin, ça, c'est une très bonne chose, parce qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Maintenant, convoquer, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une crise diplomatique. C'est juste pour rappeler à cette dame qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Mais de là à dire qu'elle ne doit plus revenir sur le territoire, ni elle ni sa famille...
Je ne suis pas sûre qu'elle passe tous ses étés en France, la sénatrice paraguayenne.
Non, mais pour la symbolique, tu montres qu'on ne crache pas sur la France comme ça.
Elle n'a pas dit qu'elle est à Saint-Tropez?
Oui, non,
Courchevel aussi.
Si non, mais enfin, au moins, on réagit. Bien que j'ai dit que je m'en fous.
Et encore, ce sont les députés qui demandent.
C'est simplement que je considère qu'on n'a pas à établir cela au niveau diplomatique. En revanche, qu'on ait une parole claire, ferme pour condamner absolument les propos qu'elle a tenus, assurément. Mais en faire quand même une affaire diplomatique.
Mais c'est qu'elle
là,
continue.
Ça me semble quand même.
Oui, parce que
maintenant. Est-ce qu'on lui, fait pas une pub? C'est-à-dire que tout d'un coup, sur place, elle est devenue la porte-parole la des anti-Bappé. J'ai vu qu'il y avait, on brûlait des effigies de Bappé dans les rues du au Paraguay.
Ouais, mais c'est-à-dire. Il y a un côté, ça ne va pas devenir une affaire d'État, notamment. Mais bien sûr, c'est pas le Watergate, on est bien d'accord. Mais en même temps, on peut pas passer ça sous les ponts, c'est-à-dire que la lutte contre le racisme, c'est pas un petit truc, en fait. Et on peut pas tolérer qu'une dégénérée de l'autre côté de la planète. Et en plus, elle insiste. Au début, elle sort sa première dinguerie. Après, elle dit, soyez patiente avec moi parce que je suis issue d'une génération où dire sale nègre de merde, c'était la même chose. Elle demande de la patience. Et après, elle traite la mère de Mbappé de PUTE, voilà, pour étioler le mot. Au bout d'un moment, faut faire attention. Il faut être très ferme avec elle.
Et puis, alors, maintenant, elle voudrait s'excuser seulement si monsieur
Elle demande des excuses. Ouais,
non, mais
voilà.
Ça devient. On marche sur la tête.
Emmanuel Macron ne quitte plus ses lunettes de soleil. On l'a vu encore récemment à Damas, en Syrie, porter donc ses lunettes type aviateur. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bérénice?
Alors là, je vais dire non, mais on s'en fout pas.
Sandrine. Ah,
j'en ai vraiment rien à faire. Pardon,
Abel.
On s'en fout pas.
Comment, début d'année, Emmanuel Macron souffrirait d'un problème aux yeux, pouvant s'apparenter à une conjonctivite, selon l'entourage du président?
Non, c'est pas possible, parce que justement, moi j'ai vu les photos face au président syrien. Mais on se demande, il faut quand même concevoir qu'il est censé représenter la France. Là, on a l'impression d'un acteur américain en représentation, donc pour exclusivement sa personne. Je crois que là, vraiment, il met en péril la fonction présidentielle.
Avec des lunettes de soleil.
Pas simplement les lunettes de soleil, toute cette allure, mais effectivement, ces lunettes de soleil, cette chemise blanche, je crois vraiment que par rapport à la crédibilité de notre pays,
un peu de sobriété.
Mais
on se porte des lunettes de soleil, c'est pas être sobre.
Tu n'as pas vu les photos.
Je me dis bon.
Mais face au président syrien.
Non, mais Sandrine, il porte pas des lunettes de soleil comme toi et moi quand on va dehors.
Bien sûr, dès qu'on est dehors.
Il porte des lunettes de soleil avec le président syrien à l'intérieur en discussion.
Ah non, cette photo est impressionnante.
Par les soucis de transparence, il ne devrait pas dire précisément ce qu'il a, parce que c'est très bizarre. Les gens, ils sont choqués. Ils se disent, parce que si tu n'as pas suivi l'affaire, ils ne comprennent pas pourquoi il garde ses lunettes de soleil alors qu'il est avec un interlocuteur, son homologue syrien.
Oui, puis il a quand même bien fait savoir que il en fait un véritable gadget. Oui. Il a eu des mots sur ce port de lunettes qui finalement est un accessoire.
Bon, après, aller jusqu'à dire que la fonction présidentielle serait remise en cause ou serait en danger, là tu vas dans l'autre extrême toi-même. Il a un problème, donner la cause, mais deux, il pouvait mettre des verres fumés. Je pense que c'est très important, par contre, qu'on voit le regard du chef de l'État lorsqu'il s'exprime. Donc moi, j'ai déjà dit que quand il est comme ça, il ressemble à un Tom Cruise de chez Wish. Donc des verres fumés. Mais oui, mais c'est-à-dire que dans la communication... des verres fumés, ça aurait suffi. Mais la fonction présidentielle, je pense que... D'autant plus qu'il est plus là bientôt et ça sera tant mieux.
Et son passage déjà précisément ce qu'il a à l'œil, le chef de l'État.
Apparemment, c'est encore une conjonctivite.
Donc, quand il se gratte les doigts, il faut qu'il se lave les mains avant.
Oui. Quand il se gratte les yeux.
Les yeux, pardon.
Alors, Abel.
Gratte-toi les doigts comme ça, gratte-toi les doigts.
Abel a une conception de l'anatomie un peu bizarre avec des gestes. Tout est possible.
Je pense qu'on peut y arriver.
Dans tous les cas, on souhaite au président un bon rétablissement, mais savoir précisément ce qu'il a. Je pense que même pour les Français, c'est bien et c'est normal de savoir si président a un problème à l'œil ou quoi que ce soit.
Alors maintenant, on ne dit plus Maître Gims, on dit
Gims, pardon.
Dans un instant, un sondage donne Marine Le Pen gagnante dans tous les cas de figure. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne pour Marine Le Pen? On en parle avec vous au 32-16. Et puis, on reviendra aussi sur le cocktail dans un ministère pour célébrer l'adoption de la loi sur la fin de vie. Est-ce que c'est la célébration de la honte? Là encore, vous réagissez avec les GG. Il est 10h05. Restez avec nous en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules.